Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission du groupe Marie de Nazareth, qui inclut les mails quotidiens comme Une Minute avec Marie, la lettre bi-hebdomadaire avec Marie qui défait les nœuds, un message de miséricorde avec Josefa Mendes et mille raisons de croire, etc., etc. Grande joie de vous retrouver en cette rentrée, en ce 8 septembre. Nous espérons que vous avez passé un bon été. Nous sommes très heureux de recommencer l'année sur Radio Courtoisie et nous vous remercions de nous rester fidèles. Merci de vos mails et des échanges que nous pouvons avoir. J'aime beaucoup vous lire car cela vous incarne davantage. Alors j'apprécie ces débats que nous avons par message interposé. J'apprécie vos connaissances, vos commentaires. Merci beaucoup sur un sujet ou tout autre complément d'information que nous aurions pu évoquer. Toujours très courtoisement et c'est bien agréable. Merci beaucoup. Alors cette année sera un petit peu différente de la précédente, vous allez le découvrir, mais toujours avec Justina à nos côtés.
Bonjour.
Bonjour Justina, c'est une grande joie de se retrouver en ce mois de septembre. Vous êtes, je le rappelle, diplômée en théologie, ayant donc suivi dans votre cursus une formation d'homilétique et vous pratiquez donc l'homélie dans votre paroisse orthodoxe à Paris.
Tout à fait.
Alors vous ferez désormais chaque semaine un commentaire d'une lecture du jour en fonction de son intérêt théologique. Alors, petite question, Justina, quel texte de quelle messe, messe au pluriel, choisirez-vous? Parce que nous n'avons pas tout à fait le même cycle liturgique.
Donc, c'est simple, il n'y aura pas de préférence autre que textuelle.
Oui.
Donc, pour quand je vais préparer les émissions, je vais regarder tous les calendriers liturgiques, c'est-à-dire, et surtout les lectures du jour, donc que ce soit la messe Paul VI, la messe Trisantine, la liturgie orthodoxe selon le nouveau calendrier ou la liturgie orthodoxe selon l'ancien calendrier. Et je vais vraiment choisir les lectures en fonction de l'intérêt théologique que moi je peux en tirer en partant du texte.
Très bien.
Et en début d'émission, je préciserai bien sûr de quel texte il s'agit et de quel office exactement il est tiré.
Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Alors, chers auditeurs, c'est nouveau pour nous les catholiques d'avoir une homélie faite par une femme, parce que chez nous, ça n'existe pas.
Chez nous aussi, mais bon, parfois...
Il y a des exceptions.
Il y a des exceptions, oui.
Bon, nous allons découvrir ça après que j'aurai présenté... notre plus fidèle invité que vous m'avez redemandé, Patrick Sbalquero.
Bonjour.
Bonjour Patrick, merci de revenir pour un troisième cycle de quatre émissions. Je rappelle que vous êtes auteur, journaliste, historien. Vous avez écrit pas moins de 22 livres avec d'autres auteurs de renom comme le cardinal Poupard, Pierre Chaunu, évidemment Monseigneur Laurentin. Merci beaucoup, je suis très contente de vous accueillir de nouveau.
C'est gentil, merci.
Alors, nous parlerons aujourd'hui de l'Église face au miracle de l'Évangile à nos jours. Eh bien, Justina, alors, dites-nous, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, curieusement, ça va être exceptionnel par rapport à ce que je viens de dire.
Oui.
Parce que nous sommes le 8 septembre et nous entamons cette nouvelle année radiophonique avec vous. Et curieusement, ça correspond aussi au début de l'année liturgique dans l'Église orthodoxe.
Oui.
Et le 8 septembre de l'Église orthodoxe et de l'Église catholique romaine fête la nativité de la Mère de Dieu. Et même si cette année nous avons prévu un cycle d'émissions, nous allons nous concentrer sur les autres lectures, vraiment aujourd'hui je suis obligée de faire l'exception car le récit de la nativité de Marie ne se retrouve pas dans les Écritures mais dans un livre apocryphe qu'on appelle le proto-évangile de Jacques. Alors certes c'est un apocryphe et certes ce n'est probablement pas l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, qui en est réellement l'auteur, mais ce document date du IIe siècle et témoigne de l'intérêt des premiers chrétiens envers la Vierge Marie, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Deuxièmement, ce même texte est une source qui a marqué la vie liturgique de l'Église primitive, au point que les fêtes dites mariales que nous connaissons depuis l'Antiquité sont tirées de ce texte. C'est la nativité de Marie et la présentation de la Vierge au Temple. Donc, qu'on le veuille ou non, ce texte, malgré les critiques, que je conçois totalement, fait partie de la tradition de l'Église. Il est important de le connaître, ne serait-ce que ne pas ignorer son existence. Donc, je vais lire l'extrait de ce texte et le commenter très brièvement. Les histoires des 12 tribus racontent qu'un homme fort riche, Joachim, apportait au Seigneur double offrande, se disant « Le supplément sera pour tout le peuple, de la part que je dois pour la remise de mes fautes ira au Seigneur, afin qu'il me soit propice. » Vint le grand jour du Seigneur, et les fils d'Israël apportèrent leurs présents. Or, Ruben se dresse devant lui et dit « Tu n'as pas le droit de déposer le premier tes offrandes, puisque tu n'as pas eu de postérité en Israël. » Joachim eut grand chagrin et il s'en alla consulter les registres des 12 tribus du peuple, se disant « Je verrai bien dans les archives si je suis bien le seul à ne pas avoir engendré en Israël. » Il chercha, il découvrit que tous les justes avaient suscité une postérité en Israël. Il se souvint du patriarche Abraham. Sur ses vieux jours, le Seigneur lui avait donné un fils Isaac. Alors accablé de tristesse, Joachim ne réparut pas devant sa femme, il s'est rendu dans le désert, il y planta sa tente, et 40 jours et 40 nuits, il jeûna, se disant « Je ne descendrai plus manger ni boire avant que le Seigneur mon Dieu ne m'ait visité. La prière sera ma nourriture et ma boisson. » Et sa femme Anne avait deux sujets de se lamenter et de se marteler la poitrine. « J'ai à pleurer, disait-elle, sur mon veuvage et sur ma stérilité. » Vint le grand jour du Seigneur, Judith, sa servante, lui dit « Jusqu'à quand tu te désespéreras. C'est aujourd'hui le grand jour du Seigneur. Tu n'as pas le droit de te livrer aux lamentations. Prends donc ce bandeau qui m'a été donné par la maîtresse de l'atelier. Je ne puis m'en orner, car je ne suis qu'une servante. » Et il lui porte un insigne royal. Anne lui dit « Arrière, toi, je n'en ferai rien, car le Seigneur m'a accablé d'humiliation. Et peut-être ce présent te vient d'un voleur et tu cherches à me faire complice de ta faute. » Et Judith, la servante, dit « Quel mal dois-je te souhaiter encore de rester sourde à ma voix? Le Seigneur Dieu a clos ton sein et ne te donne point de fruits en Israël. » Alors Anne, malgré son désespoir, ôta ses habits de deuil, se lava la tête et se revêtit la robe de ses noces. Et vers la 9e heure, elle descendit se promener dans son jardin. Il vit un laurier et s'assit à son ombre. Après un moment de repos, elle invoqua le maître. « Dieu de mes pères, dit-elle, bénis-moi, exauce ma prière ainsi que tu as béni Sarah, notre mère, et tu l'as donné son fils Isaac. » Levant les yeux au ciel, elle aperçut un nid de passereaux dans le laurier. Aussitôt, elle s'est remise à gémir. « Là, disait-elle, qui m'a engendré, de quel sein suis-je sortie? Je suis née, maudite devant les fils d'Israël. On m'a insultée, ralliée, chassée du temple de Seigneur mon Dieu. Là, à qui se compare mon sort? Même pas aux oiseaux du ciel, car les oiseaux du ciel sont féconds devant ta face, Seigneur. Là, à qui se compare mon sort? Même pas aux animaux stupides, car les animaux stupides sont eux aussi féconds devant toi, Seigneur. À quoi se compare mon sort? Non plus aux bêtes sauvages de la terre, car les bêtes sauvages de la terre sont fécondes devant ta face, Seigneur. À quoi se compare mon sort? À ces eaux non plus, car ces eaux sont tantôt calmes, tantôt bondissantes, et leurs poissons te bénissent, Seigneur. Là, à qui se compare mon sort? Même pas à cette terre, car la terre produit des fruits dans leur saison et te rend gloire, Seigneur. Et voici qu'un ange du Seigneur parut, disant « Anne, Anne, le Seigneur a entendu ta prière. Tu concevras, tu enfanteras, et l'on parlera de ta postérité dans la terre entière. » Anne répondit « Aussi vrai que je vis le Seigneur Dieu, je ferai don de mon enfant, garçon ou fille, au Seigneur mon Dieu, et il le servira tous les jours de sa vie. » Et voici deux messagers surviennent lui dire « Joachim, ton mari, arrive avec ses troupeaux. » Un ange du Seigneur est descendu auprès de lui, disant « Joachim, Joachim, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière. Descends d'ici. Voici que Anne, ta femme, a conçu en son sein. » Aussitôt Joachim est descendu, il a convoqué ses bergers, leur disant « Apportez-moi ici 10 agneaux sans tache ni défaut, ces 10 agneaux seront pour le Seigneur Dieu. Apportez-moi aussi 12 veaux bien tendres, et les 12 veaux seront pour les prêtres et le conseil des anciens. Aussi 100 chevreaux, et les 100 chevreaux seront pour tout le peuple. » Joachim arriva avec ses troupeaux, Anne l'attendait aux portes de la ville. Dès qu'elle le vit paraître avec ses bêtes, elle courut vers lui, se suspendit à son cou et s'écria « Maintenant je sais que le Seigneur Dieu m'a comblé de bénédictions. Voici, la veuve n'est plus veuve et la stérile a conçu. » Et Joachim, ce premier jour, resta chez lui à se reposer. Le lendemain, il apportait ses offrandes. « Si le Seigneur Dieu m'a été favorable, pensait-il, la lame d'or du prêtre va me le révéler. » Il présenta ses offrandes et scruta les tiers du prêtre quand celui-ci monta à l'autel du Seigneur. Il sut qu'il n'y avait pas de faute en lui. « Maintenant, dit-il, je sais que le Seigneur Dieu m'a fait grâce et m'a remis tous mes péchés. » Il descendit du temple du Seigneur, justifié, et rentra chez lui. 6 mois environ s'écoulent, la 7e, Anne enfanta. « Qu'est-ce que j'ai mis au monde ? » demande-t-elle à la sage-femme. Et celle-ci répondit « Une fille ». Et Anne dit « Mon âme a été exaltée en ce jour, et elle coucha l'enfant. » Quand les jours furent accomplis, Anne se purifia, donna le sein à l'enfant, et l'appela au nom de Marie. Ici, nous pouvons observer pleinement la mentalité antique juive selon laquelle l'abondance dans le tout est un signe de bénédiction divine, même si Joachim est présenté comme un homme riche, donc a priori béni, mais les conditions de sa reconnaissance sociale ne sont pas remplies, car son couple n'est pas fécond. La culture vétérostémentaire ne connaît pas ce qui se passe après la mort. La question « l'homme vivra-t-il » est posée, mais il n'y a pas de réponse. La descendance sur Terre assure quelque part une forme d'immortalité, ne serait-ce que fictive, et c'est pour cela que les parents de Marie ont peur de voir leur nom effacé de la mémoire du peuple d'Israël. Ils subissent le même sort que les couples de l'Ancien Testament qui n'arrivent pas à concevoir, donc à commencer par Abraham et Sarah, le mépris et le rejet des autres d'une part, donc l'exemple du mépris social est démontré dans le texte, Ruben qui s'indigne des sacrifices de Joachim, qui n'a pas d'enfant, Anne mentionne qu'elle n'est plus acceptée au temple, et le questionnement sur soi-même, qui sommes-nous aux yeux de Dieu si nous n'y arrivons pas à procréer ? Tout comme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le récit nous expose un retournement de situation selon lequel les derniers se retrouvent tout d'un coup premiers. Ceux qui espéraient être au moins comme tout le monde ont obtenu bien plus qu'ils ne pouvaient penser.
Amen. Merci beaucoup, Justina. Je vous propose à présent d'écouter ce magnifique Ave Maria de Cassini, qui n'est pas de Cassini, mais Vavilov, chanté par les petits chanteurs de la Croix de Bois.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Très jolie Ave Maria, merci à cette belle chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois. Chers auditeurs, vous écoutez Magnificat, l'émission du groupe Marie de Nazareth. Parlons à présent de l'Église, notre chère Église, qui suscite parfois notre étonnement, voire notre interrogation pour sa lenteur dans les prises de reconnaissance de miracles qui nous semblent pourtant indéniables, mais pour laquelle nous reconnaissons la très grande prudence néanmoins et de la patience de l'Église. Alors, une précision, lorsque nous évoquerons l'Église ici, nous parlerons du peuple de Dieu, pas du peuple de Dieu, mais de la hiérarchie, vraiment, l'autorité doctrinale. Alors, nous parlerons de miracles, Patrick, mais donnez-moi une définition du mot miracle. Qu'est-ce qu'un miracle ?
Alors à mes yeux, un miracle est un phénomène extraordinaire, inexpliqué et inexplicable selon les lois naturelles, qui a une signification, un sens spirituel. Autrement dit, le miracle se compose de deux éléments, si vous préférez, le phénomène physique, oui, tangible, et puis à côté, le sens que l'on attribue. Un exemple tout simple, peut-être les stigmates.
Oui, dont nous avions parlé.
Voilà, c'est peut-être l'un des exemples les plus parlants. Mm-hmm. D'un côté, vous avez bien sûr les blessures, les plaies épidermiques qui peuvent être analysées, observées, photographiées. Et puis de l'autre, le sens des stigmates. Il ne s'agit pas simplement, oui, de plaies, mais de participation de la personne stigmatisée à la passion du Christ sur un mode extraordinaire, sur un mode exceptionnel.
Alors, nous allons parler de miracles terrestres du temps de Jésus et ce que le bon Dieu a fait à travers sa mère ou ses saints. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'une évolution intellectuelle du sujet entre les premiers temps et maintenant?
Oui, on peut parler d'une évolution intellectuelle du sujet. Pour ma part, j'aurais tendance à parler d'une évolution plus spirituelle du sujet qu'intellectuelle.
Oui.
Des miracles, il y en a évidemment depuis presque toujours, hein, si l'on peut dire, et en particulier depuis l'Évangile. Donc,
oui,
ça, c'est une chose. Mais les premières communautés chrétiennes ont également, bien sûr, connu des miracles, en très grand nombre. Et ces miracles, il a fallu, pour employer un mot qui n'est pas très joli, mais les gérer, s'en occuper. Dire si oui ou non, ce sont des vrais miracles, ce sont simplement des faits qu'on ne peut pas expliquer, est-ce qu'ils ont justement cette signification, cette portée évangélique? Et les premières communautés en Orient et après, bon, rapidement en Occident, eh bien, en sont venues à placer cette gestion des miracles, du miraculeux, sur les épaules des chefs, des responsables des communautés, en l'occurrence les évêques.
Oui.
Les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Ça, c'est très important. C'est une notion qu'on va retrouver traîner comme un fil rouge jusqu'à maintenant. Et actuellement, dans l'Église de 2024, eh bien, ce sont les évêques, encore une fois, qui sont responsables de la gestion du miraculeux en tant que successeurs des apôtres, évidemment dans le champ catholique, en union avec l'évêque de Rome, avec le pape.
Le pape. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous opposez miracle-preuve à miracle-signe?
Alors, c'est une distinction qui est, à mon avis, qui a été trop faite. Trop faite. Mais je peux en dire un mot.
Oui, c'est
le miracle, le miracle signe est en général le miracle qui est accompli en dehors des procès de béatification et de canonisation. On dit que c'est un signe.
Par exemple.
Un signe de Dieu. Par exemple, une guérison extraordinaire à Lourdes ou à Fatima. Ou, voilà. Les stigmates,
oui,
on en parlait. Une multiplication des vivres, par exemple. Mm-hmm. Il y a des saints qui,
oui,
multiplient les vivres. C'est assez incroyable.
Bien,
et, oui, et encore au XXe siècle. Hein, pour les... Et puis toute une foule d'autres faits incroyables. Ça, c'est le signe. C'est le signe que Dieu est là. Le doigt de Dieu est là, hein, a dit l'évêque de Lourdes en 1862 quand il a reconnu,
oui,
les apparitions de la Vierge. C'est ça. C'est le signe que le ciel agit, est présent ici-bas. Et le miracle preuve, alors la différence est un peu ténue, mais le miracle preuve, c'est le miracle considéré dans les procès de canonisation.
Très bien.
La première étape, si l'on peut dire, on ne va pas remonter toutes les étapes, bien sûr, mais la première étape, la chose essentielle, est-ce que le candidat aux autels a vécu les valeurs de l'évangile sur un mode héroïque? Bon, si c'est le cas, il faut en plus, l'Église exige un sceau, une signature de Dieu, comme une preuve, c'est pour ça qu'on parle de miracle-preuve, bien sûr, qui vont venir eh bien, définitivement montrer que la sainteté du candidat est envisageable et envisagée. Et donc, eh bien, depuis très très longtemps, depuis le Moyen-Âge, il faut, pour être canonisé, avoir accompli des miracles post-mortem.
Après... Deux, c'est ça?
Alors, actuellement, il en faut un pour la béatification,
oui,
et un autre pour la canonisation. Hormis les martyrs, bien sûr, les martyrs, eux, sont exemptés de miracles. Alors, ça a changé, ça. Le régime a un peu changé. Autrefois, et pas jusqu'au XIXe siècle, il a fallu jusqu'à trois miracles
Ah oui.
Alors là, ça devenait un peu compliqué. Mais bon, trois miracles.
Ça dépend pour quel saint.
Mais ça dépend pour quel saint, exactement. Vous avez des saints où, de toute façon, il y a pléthore de miracles.
Oui. Alors donc,
ça ne pose pas de soucis.
Mais,
oui. Oh, oui, mais voilà.
Je crois que c'est le champion.
Voilà, en toute catégorie. Mais sinon, vous avez des saints, effectivement, et des bienheureux où on est à la recherche encore de choses, de miracles. Donc, le régime a changé, mais sur le fond, ça n'a pas changé. Il s'agit toujours du miracle preuve dans ces procès de canonisation.
D'accord. Donc, l'Église se positionne toujours de façon prudente, nous le disions, avec temps.
Toujours.
Et alors, est-ce qu'on a l'impression que maintenant, les choses vont un petit peu plus vite ? Est-ce que je me trompe ?
Alors, je pense que les choses ne vont pas plus vite.
Ah bon, parce que je pensais à Carlo Acutis, par exemple, qui est mort
oui.
Il n'y a pas si longtemps
et qui sera
canonisé finalement.
Rapidement. Oui. Là, les miracles ont été repérés finalement et analysés rapidement. Donc
oui.
Voilà.
Et puis nous pensons à Saint Jean-Paul II, Santo Subito.
Bien sûr. Le cas de Carlo Acutis, il est décédé à l'âge de 15 ans, si mes souvenirs sont exacts. Donc il n'y a pas eu toute cette phase préparatoire dans le procès d'analyse des écrits. Du candidat,
oui,
si tant est qu'il les écrit, bien
oui,
sûr.
Oui, oui.
Et là, chez Carlo Acutis, c'était...
C'est sur Internet.
Voilà, exactement.
C'était très moderne, oui. En préparant cette émission, je me disais, un saint, c'est déjà un miracle en soi.
Bien sûr.
Parce que, voilà, ce sont de beaux exemples. Alors, ces premiers saints moururent, d'autres suivirent pendant des siècles. Et des siècles qui séparent les premiers apôtres. Nous avons commencé à vénérer les reliques des saints. Avec leur lot de miracles.
Oui, bien sûr. Juste un mot, c'est peut-être sur le culte des reliques.
Oui.
C'est quelque chose qui, en 2024, peut nous sembler un peu poussiéreux, un petit peu éloigné, un petit peu lointain. Il faut savoir que pendant des siècles, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, c'est un phénomène, une pratique répandue universellement dans le monde
très
chrétien.
Courante. Hein, oui.
C'est Les lieux qui détiennent les reliques sont des centres, tous sans exception, des centres de pèlerinage.
Ah oui. On sent bien qu'il y a un peu un côté tabou avec les reliques, parce que par exemple pour Saint Jean-Paul II, ils ont pris du sang, ils n'ont pas pris un morceau de tibia comme c'était l'usage autrefois.
En même temps, c'est très drôle parce que les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus font le tour du monde.
Oui,
plusieurs fois
vrai,
le tour du monde.
C'est vrai.
Et
il
y a des gens qui viennent, qui s'y précipitent. Donc voilà.
Oui. Alors il y a des miracles devant le Saint-Sacrement.
Oui.
J'ai vu sur les réseaux sociaux, peut-être en avez-vous entendu parler, je crois que c'est au Brésil, vers le 15 août cette année,
oui.
Un miracle eucharistique lors d'une nuit d'adoration au Saint-Sacrement.
Oui.
Nous voyons l'hostie palpiter.
C'est ça. Alors, pour l'instant...
Alors, on sait que l'Église va prendre son temps.
L'Église va vraiment prendre son temps, comme dans tout.
On sera peut-être plus là quand le...
L'Église a tout son temps et c'est tout à son honneur.
Oui, bien sûr.
Parce qu'engager quelque part son autorité sur des choses qui sont contestables ou qui sont compréhensibles selon les lois naturelles, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Donc là, en ce qui concerne cet événement dont vous me parlez, qui est repérable sur les réseaux sociaux... Il faut en tout cas attendre que les analyses soient vraiment, vraiment, vraiment achevées et on aura des comptes rendus.
Oui. Alors, on oublie, hein, les gens disent « Oh là, autrefois, il y avait des miracles, donc c'était facile pour les gens de croire, mais il y en a tout autant maintenant, sauf qu'on ne veut pas forcément les voir. » Comment est-ce que l'Église se positionne par rapport à la prière des frères ? Ce que j'appelle la prière des frères, c'est lors de soirées de louanges, par exemple. Après, il y a des laïcs qui vont prier sur les fidèles, qui ont des paroles de connaissance, et puis certains sont même guéris. L'Église autorise ce genre de pratique, puisque ça a lieu dans des paroisses. Mais je n'ai jamais vu passer de texte officiel.
Alors, à ma connaissance, non. L'Église est très prudente aussi sur le fait pour des laïcs de prier sur d'autres laïcs.
Oui.
Là, il faudrait remonter un petit peu dans le temps avec la signification de ce geste. Hein.
Oui.
Donc, là aussi, prudence. Et à ma connaissance, il y a des textes qui émanent de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur la question de la guérison. Il y a eu ça il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et prudence.
D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup Patrick.
C'est moi.
À la semaine prochaine. Alors avant de terminer cette émission, chers auditeurs, je vous rappelle que le pèlerinage des 7 routes Notre-Dame se termine samedi et dimanche prochain. Voilà, il y aura une belle procession dans Paris à partir de 19h qui partira de l'église Saint-Laurent jusqu'au parvis de Notre-Dame. Alors sur le parvis de Notre-Dame, il y aura une veillée de prière au pied de la cathédrale, une veillée au flambeau, avec dépôt des intentions de prière récoltées pendant les 7 semaines de marche sur toute la France. Je vous y attends, parce que je suis un peu dans le coup, donc je serai contente de vous rencontrer si vous venez. Le lendemain, nous aurons la grande joie d'offrir une statue de Sainte-Barbe au général Dupré-Latour pour les pompiers de Paris, une statue de Saint-Joseph à un charpentier et la statue de Saint-Roch à un tailleur de pierre. Enfin, il y aura le chapelet à Notre-Dame des Douleurs. Et puis la messe à 15h à Saint-Sulpice, célébrée par Monseigneur Ulrich. Voilà, écoutez, je ne sais pas si on a le temps d'écouter un petit morceau qui est l'hymne de ce pèlerinage des 7 routes. L'émission se terminera ainsi. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.